Ah, mais j'embrasse la littérature, c'est sûr, enfin, j'essaie en tout cas.
Lire, vivre, ça redonne envie de vivre.
Mais ce qu'il y a de plus passionnant pour moi, de plus vivant, c'est les livres.
J'ai une très bonne hygiène, je lis à peu près 200 livres par an.
Les livres sont une merveilleuse invention, vous ne trouvez pas ? De page en onde. Quand les livres se font voix, quand la radio rencontre la littérature.
Merdrigal, en dédicace. Dans mon cœur, en ta présence, fleurissent des harengs sorts. Ma santé, c'est ton absence. Et quand tu parais, je sors.
Eh ben, pour le mois de la Saint-Valentin, c'est une drôle de manière de commencer, les liserons. Quel mufle, ce type !
Ce type, c'est Léon-Paul Fargue, qui a vécu à la charnière du 19e et du 20e siècle. Piéton de Paris, c'est son œuvre la plus connue, et fantaisiste brillant.
Alors mufle peut-être, mais ce merdrigal est bien troussé, et puis deux calembours mauvalisent pour un quatrain, son titre et sa dédicrace, ça va très vite, c'est efficace, et ça fait rire.
L'émission d'aujourd'hui est consacrée au trésor insuffisamment exploré des textes brefs, de toutes sortes, des élogieux, des injurieux, des amoureux, des nouvelles, des graffitis, des fables, des énigmes, des épigrammes, des madrigaux.
Car oui, le merdrigal, c'est une variation sur le madrigal, une épigramme galante. En voici d'ailleurs une, en 8 vers, d'Isaac Banzrade. Un bel esprit du 17e, qui pondait le mot d'esprit à la demande par centaines de pages, et en vivait fort bien, protégé par les plus illustres personnages du temps, comme Richelieu par exemple.
Chanson. Par mes regards jugés de mon martyr, on me défend, Cloris, de vous l'expliquer mieux. Quelle pitié d'en avoir tant à dire et de n'oser vous parler que des yeux. Je suis heureux dans un si beau supplice, expirant sous les traits dont vous blessez les dieux. Mais permettez que mon cœur éclaircisse par un soupir ce que disent mes yeux.
Ben voilà, on l'appelle Cloris ou Tircis ou Aminte. Ça dissimule son identité comme un masque. Et en avant pour les compliments précieux et les soupirs galants.
Alors aujourd'hui, contre les épopées interminables, les sagas aux 35 tomes, les épanchements de Victor Hugo, les romans fleuves voire océans, ce sera Nouvelles en 3 pages, ou en 3 lignes, poèmes de joaillier ou déboueur, mais bref, bref, bref.
Louis Tiratoïevski a mortellement blessé à Aubervilliers Madame Brécourt et s'est suicidé. L'amour.
À Oyonnax, Mademoiselle Cotet, 18 ans, a vitriolé Monsieur Bénard, 25 ans. L'amour, naturellement.
La Bartani de Béziers, veuve, car elle avait tué son mari, a déchiré d'une balle le nez de Rofini. Un homme ? Un chien, dit-elle.
Ça, c'est Félix Fénéon. Les nouvelles en 3 lignes. Qui dit mieux ?
Moi, je l'ai fendue du haut en bas comme une bête parce qu'elle comptait les mouches au plafond pendant que je lui faisais l'amour.
Je l'ai tuée parce que j'étais sûre que personne ne me voyait.
Le pauvre, il était si laid que chaque fois que je le rencontrais, c'était comme une insulte. Il y a des limites à tout.
Ça, c'est Max Aube. Il y en a 130 du même tonneau des crimes exemplaires, entre une ligne et une page et demie.
Comme disait Émile Cioran dans ses syllogismes de l'amertume, toutes les eaux sont couleur de noyade.
Vous voyez, on a commencé par l'amour, bon, pas sous le jour le plus lumineux. Mais gardez-le en tête, vous qui vous êtes regardé les yeux frits au resto le 14 février. L'amour, c'est pas toujours rose. Jugez ces pièces.
L'âge des problèmes. Il s'attendait à tout en annonçant sa décision à sa femme, mais pas à ce qu'elle éclate de rire et dise « Ne me fais pas rire !»« Heureux que tu le prennes comme ça, » dit-il d'un ton pincé. « Mais je t'assure que je suis sérieux. » « Je n'en doute pas, » dit-elle. « Alors, sérieusement, tu veux divorcer pour une petite de 25 ans, à ton âge ?»« À mon âge, justement. Il n'est pas trop tard, mais il est temps. » Et elle, la différence, ça ne la gêne pas ? Au contraire, elle préfère les hommes plus âgés. Elle... Et si nous divorçons, tu comptes l'épouser ? Parfaitement. Elle a un diplôme d'infirmière ? Pardon ? Moi, avec tes problèmes, je me suis formée sur le tas au fur et à mesure de leur apparition. Mais elle, si jeune, quand elle les découvrira d'un seul coup, ne t'inquiète pas pour elle, elle est au courant, elle m'accepte comme je suis. Courageux de sa part. Elle est vraiment au courant de tout. Mais oui, et là n'est pas la question, là, de tes problèmes d'estomac, de tes problèmes de foie, de tes problèmes de reins. Je lui ai parlé de tout ça. C'est ta conversation qui a dû la séduire. Et tes problèmes d'intestin, elle est au courant aussi ? Bon, ça suffit. Et tes problèmes d'hémorroïdes, assez ! Et tes problèmes de prostate ? Ça va, tais-toi ! Sans oublier tes problèmes de verre. Tu vas te taire, oui ! Elle se tue, en effet, ayant reçu en pleine tempe un coup du gros cendrier en verre de Murano qui se trouvait sur la cheminée. Elle s'écroula, et il la rattrapa juste avant que le crâne ensanglanté ne tache le tapis. Il reposa le cendrier, auquel il tenait beaucoup, et traîna le corps jusqu'au carrelage de l'entrée. Il se félicita d'avoir, par un heureux hasard, choisi de lui annoncer la nouvelle dans leur chalet de montagne isolé, et à la nuit tombante. Il avait vu énormément de films policiers et sut donc aussitôt ce qu'il fallait faire. Il tira le corps jusqu'à la voiture, l'installa non sans mal à la place appropriée, dite « du mort », et se mit au volant. La petite route enlaçait descendant vers le village 3 kilomètres plus bas, longeait un ravin. À mi-parcours, il stoppa la voiture en travers de la route, direction parapet, et mit le frein à main. Il contourna la voiture, y rentra par l'autre portière qu'il laissa ouverte, poussa le corps derrière le volant et lui boucla la ceinture de sécurité. Il remit le contact, desserra la pédale de frein, embraya d'un pied, accéléra de l'autre et passa directement en seconde. La voiture s'ébranla vers le ravin. Juste avant le dîner, ma pauvre femme a pris la voiture pour aller chercher de la moutarde. Dans sa peur que l'épicerie ne ferme, elle a dû perdre le contrôle. Au moins, il n'avait pas de problème de réflexe, hein, ma carne ! Comme il se tournait pour sauter par la portière restée ouverte, une douleur aiguë le cloua sur place, souffle coupé. Il voulut se retourner pour atteindre la pédale de frein, mais se laissa retomber avec un gémissement. Bloqué. La voiture prenait de la vitesse et il restait bloqué, complètement bloqué. « Oh non » hurla-t-il. « Non !» Le hurlement s'étrangla dans sa gorge. Elle avait rouvert un œil et le regardait avec une pitié méprisante en secouant sa tête pleine de sang. La voiture brisa le parapet. Pendant qu'il tombait, il l'entendit ricaner. « Tu avais oublié tes problèmes de vertèbres ?»
Ah ah, quelle chute!
Eh ouais, c'est ce qu'on appelle une nouvelle à chute, dans tous les sens du terme. C'est Fred Cassac, dans Qui a peur d'Edgar Poe.
C'est pas récent, ces dérapages de l'amour. La preuve.
Quis quis amat veniat, veneri voro frangere costas, ustibus et lumbos debilitare deae, si potest illa mi tenerum pertundere pectus, quid ego non possim caput ille frangere fuste?
Qu'ils viennent les amoureux. Vénus, je lui pète les côtes, je lui casse les reins. Si elle peut briser mon cœur tendre, pourquoi je lui briserai pas la tête à coups de bâton ?
C'est un graffito de Pompéi, et l'auteur envisageait de s'attaquer à la source du problème.
En tout cas, ce n'est pas indifférent que ce texte soit une inscription. Parce qu'en fait, la brièveté est consubstantielle à l'invention de l'écriture et à ses premiers supports, l'argile ou la pierre, qui obligent à être lapidaire. Un texte, ou une formule lapidaire, c'est un texte concis, bref et percutant, susceptible d'être gravé sur une pierre. Ce que les Grecs ont appelé à l'origine une épigramme. C'est le premier sens du mot, inscription, tout simplement.
On les trouvait sur des autels, des colonnes, des pierres tombales, d'où l'invention du mot épitaphe. Plus spécialisées dans l'épigramme funéraire, et elles avaient pour but de placer sous la protection d'un dieu. Un lieu, par exemple, c'est l'épigramme votive. De commémorer un haut fait, ou de célébrer des vertus. Ce qui a très vite autorisé à son contraire, c'est-à-dire de se moquer, d'où le sens actuel du mot épigramme. Bref, poème terminé par une chute, ou une pointe, comme le dard d'une abeille ou d'un scorpion.
Un petit exemple ? Oui. Prenons-en un chez le spécialiste, une vraie langue de vipère. Voltaire contre son ennemi Fréron.
L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva.
Ou celle-ci contre un mauvais poète dans la plus pure tradition de l'épigrammatiste latin Martial. On vient de me voler.
Que je plains ton malheur.
Tous mes vers manuscrits.
Que je plains le voleur.
Ça, c'est le Brun Pindare au XVIIIe siècle.
Que sa peau cache une infirmité. Peut-être la pelade. Regardez cette allure. On ne peut distinguer ses mains de sa figure. Avec ses poils partout, ça me fait grand dégoût. Elle n'aura guère de chance de rencontrer le prince. Avant de l'embrasser, il faudra qu'il la rince. De la tête au talon, sa peau doit être rance.
La vieille m'a dit sur l'heure, il faut que tu me ranges. L'écurie, les communs, les étables et la grange.
Sais-tu en quelle honneur ?
Et comment le saurais-je ?
Le prince cher seigneur viendra nous voir dimanche.
Comme sa majesté, il aime la propreté.
Ce n'est pas comme celle-ci.
Ah, c'est la dégoûtante.
Dégarpissons bien vite.
Elle empeste d'ici.
On dit qu'elle est méchante.
Tu devrais te cacher. Si le prince te voit, il pourrait se fâcher, exiger ton renvoi.
Tu n'auras pas le droit d'assister à la fête, car les soldats du roi, croyant voir une paix, pourraient bien te tuer.
Je prendrai peu de place, et puis je me tairai, mais je veux voir le prince au moment où il passe. Après, je m'en irai.
Voir son prince cul cendron.
Le monde fuira voyant ce laideron.
Comment t'appelles-tu, très noble courtisane ?
Je travaille à la ferme, on m'appelle Poudin.
Et c'est ta peau qui pue ? Je crois que c'est son corps. Je n'ai jamais rien vu d'aussi laid jusqu'alors.
Je fais ici serment que j'irai le trouver moi-même.
Les mœurs sexuelles, et en particulier celles des femmes, hein, ces bourrelles des cœurs et des corps, sont un sujet inépuisable. En voici une, anonyme, il valait mieux se prémunir contre les espions et les mouches en tout genre de l'empereur, contre Eugénie de Montijo, qui épousait Napoléon III.
Montijo ? Plus belle que sage, de l'empereur comble les vœux. Ce soir, s'il trouve un pucelage, c'est que la belle en avait deux.
Mêlant les ravages de l'absinthe et un accident mortel que provoqua le fils Pernaud, une autre épigramme anonyme, en prose.
Cette famille dégénère. Le fils ne sait qu'écrabouiller un piéton à la fois. Le père empoisonnait un peuple entier.
Jean Paulhan, dans la presse clandestine, épingla ainsi deux écrivains. Abel Hermant et Abel Bonnard, qui avaient choisi la collaboration avec les Allemands. On se demande enfin, voyant de telles Abels, ce qu'au fond les cas. Hein.
On pourrait multiplier les exemples à l'infini. C'est jouissif l'épigramme. Encore une à mi-chemin de l'épitaphe, écrite par Ozone de Chancel au 19e.
On entre, on crie, et c'est la vie. On crie, on sort, et c'est la mort.
Un quatrain de tétrasyllabes, ce qu'on appelle une strophe carrée, qui résume en 16 mots le cours d'une existence. Plus lapidaire, tu meurs.
L'épigramme, avec sa pointe venimeuse, c'est une manière d'élaborer l'injure, de la civiliser. Mais l'insulte que l'on trouve dès l'origine de la littérature occidentale, c'est une source frappante, par définition, de créativité verbale. Suran, qui n'était pas vraiment un philanthrope, l'a fort bien vu, à sa brève manière.
Émile Suran, syllogisme de l'amertume, voulez-vous multiplier les déséquilibrés, aggraver les troubles mentaux, construire des maisons d'aliénés dans tous les coins de la ville ? Interdisez le juron. Vous comprendrez alors ses vertus libératrices, sa fonction thérapeutique, la supériorité de sa méthode sur celle de la psychanalyse, des gymnastiques orientales ou de l'Église. Vous comprendrez surtout que c'est grâce à ses merveilles, à son assistance de chaque instant, que la plupart de nous doivent de n'être ni criminels, ni fous.
Savez-vous au fait que l'un des plus longs poèmes d'amour des débuts du XXe siècle est la chanson du mal-aimé ? Le poème liminaire d'alcool de Guillaume Apollinaire contient un poème d'injure inspiré par un épisode historique datant de 1676. Un échange de douceur adressé par des cosaques zaporogues d'Ukraine au sultan de Constantinople qui voulait les asservir. Il paraît que cette lettre est apocryphe, qu'elle n'a pas été réellement écrite. C'est dommage, mais elle a une telle existence littéraire et même en peinture que ce serait dommage de s'en priver.
Réponse des cosaques zaporogues au sultan de Constantinople.
Plus criminel que Barabbas, cornu comme les mauvais anges, quel Belzébuth es-tu là-bas, nourri d'immondices et de fange. Nous n'irons pas à tes sabbats, poisson pourri de Salonique, long collier des sommeils affreux, dieux arrachés à coups de pique. Ta mère fit un paix foireux et tu naquis de sa colique. Bourreau de podolie, amant des plaies, des ulcères, des croûtes, groin de cochon, cul de jument, tes richesses garde-les toutes pour payer tes médicaments.
Au moins c'est dit. Vous n'êtes pas sans connaître les injures du capitaine Haddock, prolixe et inépuisable créateur d'invectives inventives.
Bougre de sauvage d'aérolite de tonnerre de Brest.
Marmotte mal réveillée. Tchouk tchouk nougat.
Crème d'emplâtre à la graisse de hérisson.
Anacolute.
Apophtegme.
Zouave interplanétaire.
1 000 millions de 1 000 milliards de 1 000 sabords de tonnerre de Brest.
Où l'on voit que l'injure, comme le juron, se nourrissent d'expansions qui portent le souffle et l'énergie.
L'invective peut aussi être amoureuse, ça nous ramène à notre case départ. Il faut bien qu'on replace ici le poète latin Catulle, mort à 30 ans et inventeur non seulement de l'épigramme romaine, qui connaîtra une fortune considérable, mais aussi du sentiment amoureux moderne. C'est lui qui, le premier, appelle celle qu'il aime, Claudia, sa lesbia, sa femme, Mulier mea, lui conférant un titre qui jusqu'alors n'existait pas, et qui se partage entre injures malsonnantes et lyrisme amoureux le plus débridé.
Ades tende casullabi, quotestis omnes undique, quot quotestis omnes.
Accourez au complet, tous mes endecasyllabes, de toutes parts, tant que vous êtes accourez. Une infâme putain me prend pour son jouet et refuse de me restituer mes carnets. Pour voir si vous pouvez souffrir un tel affront. Poursuivons-la et réclamons. Mais qui est-ce, demandez-vous ? Là-bas, vous la voyez avec sa démarche indécente et son rire affecté de mime, fendant son museau de chien des Gaules. Entourez-la et réclamez à corps et à cri, sale pute, rends nos carnets, sale pute ! Tu t'en bats l'œil ? Au fange, au bordel incarné, ou chose pire encore si cela est possible. Mais je n'ai pas sans doute assez forcé la dose. S'il n'y a pas d'autre moyen, faisons rougir cette face de bronze, cette gueule cynique. Tous en cœur, de nouveau, criez plus fortement. Sale pute, rends nos carnets, sale pute ! Peine perdue, elle ne bronche pas d'un poil. Il nous faut donc changer de méthode et de style en espérant avoir un meilleur résultat. Ô femme chaste et pure, rends-nous donc nos carnets. C'est le même poète qui a écrit le quatrain suivant. Je ne voudrais m'unir à nul autre que toi, pas même à Jupiter, dit la femme que j'aime. Mais ce que femme dit à un amant épris, écris-le sur le vent et sur l'eau qui s'enfuit.
Ronge-toi les ongles si t'as faim, espèce de gros tas fripé.
Tu es un jeune homme très mal élevé, on te l'a déjà dit.
Vieille limace baveuse.
Allez, tu peux faire mieux que ça.
Non, c'est pas vrai ça, en plus tu encourages.
Ouais, fais-moi voir comment tu punches, crâne épais, espèce de sac à vomi mal gerbé.
Tu es un bien piètre exemple pour ces enfants, t'as déjà dit. Je parie que t'as raté ton examen d'entrée en sixième.
Hémorroïde de trou du bide.
Bon, bah, disons en cinquième, alors.
Pétard à bulle, viorni, fleur de pète vache, bubon pustulant.
T'as la bouche pleine de caca, mon petit, on t'a déjà dit.
Tu n'es qu'une grosse morve visqueuse, une usine à prout, un sac à dégueulis de chat et de tripes de rat, une arrachade de sparadrap pleine de croûtes séchées, de giclures, de poireaux, un vieil hamburger d'asticot rassis avec de la moucharde forte et les mites à part.
Vous l'aurez compris, si les insultes, ça marche si bien, c'est que c'est profondément ludique. Et la forme brève offre de jouer, sans trop de conséquences, avec la langue, de faire de l'esprit, de s'amuser de toutes les manières. Et l'une de ces manières, c'est l'énigme. Un texte bref pour de longues réflexions. Commençons par une énigme du plus vieux codex en langue anglaise, le livre d'Exeter, compilé à la fin du Xe siècle. Si certaines énigmes ont un contenu clairement religieux, d'autres montrent plutôt des clercs à l'esprit mutin.
Mon vêtement a une teinte sombre. Mes ornements brillent, ma robe est rouge et rayonnante. Je trompe l'idiot et pousse l'imbécile sur des chemins imprudents. Les autres, je les éloigne des chemins respectables. Je ne sais pourquoi eux, ainsi rendus fous, leur raison volée, leurrée, font à chacun louange de ma voix pleine d'ombre.
Continuons avec l'une des 100 énigmes de Symphosius, un quasi-anonyme de l'Antiquité tardive, dont le pseudonyme signifie plus ou moins le fêtard.
Elles sont à moi, les larmes, mais leur cause n'est pas la tristesse. Mon chemin va au ciel, mais l'air lourd me retient. Et celui qui m'a fait naître, sans moi, n'est pas encore né.
Un bond dans le temps avec une énigme du jeune Boileau, au XVIIe.
Du repos des humains, implacable ennemi, j'ai rendu 1000 amants envieux de mon sort. Je me repais de sang et je trouve la vie dans les bras de celui qui recherche ma mort.
Alors, vous avez trouvé ? Alors, la première énigme, un vêtement rouge, un objet qui pousse sur des chemins imprudents, qui rend idiot ou bien qui rend plus ou moins fou, c'est le vin.
Pour la deuxième énigme, quelque chose qui cause des larmes et qui va vers le ciel et qui naît en même temps que ceux qui vont la causer, c'est la fumée qui naît avec le feu.
Pour la troisième énigme, celle de Boileau, il s'agit de la puce. Nous l'envions parce qu'elle va au plus secret des intimités et parce qu'elle assaille tellement ce qu'elle pique qu'il ne rêve que de la tuer.
Ben tiens, pour célébrer les obsèques de la puce, si on vous livrait maintenant quelques petites épitaphes bien senties et pas piquées des vers.
Épitaphe d'un homme abstinent et d'un dissolu. Sigy à qui la vie avait été trop chère, qui par son abstinence à la fin s'en priva. Sigy qui fit si bonne chère qu'il en creva.
Puisqu'on en est dans le lapidaire, on va presque passer à lapider.
Petrum petra premit su petra petre putrescis.
La pierre presse pierre, sous la pierre tu pourris.
Et voici ce que Marc-Antoine Désaugiers a écrit pour lui-même. C'était un librettiste du XVIIIe siècle. Sigy, hélas, sous cette pierre, un bon vivant mort de la pierre. Passant, que tu sois Paul ou Pierre, ne va pas lui jeter la pierre.
Épitaphe d'un comédien. Sigy est un comédien qui s'en acquitta fort bien. Il brouilla 1000 ménages, il fit 1000 personnages, tirant beaucoup de profit des personnages qu'il fit. Il fait le mort à 7 heures, et si bien que l'on en pleure. Mais il le faut avouer, c'est un long rôle à jouer.
Ça me fait penser à l'épitaphe de Bruno Kremer. Ceci est un trou de mémoire. Et pour fermer la porte de notre cimetière, l'épitaphe du fantaisiste Alphonse Allais, si j'y allais, sans retour.
Faire une épigramme, c'est comme s'envoler, vaincre la pesanteur des mots de haute lutte, être aérien, léger, tel Icare plané, mais à la condition de finir par une chute.
Oui, faire une épigramme ou du ski, c'est pareil. Il faut savoir glisser sans faire la culbute, en pull, en frac ou dans le plus simple appareil, mais à la condition de finir par une chute.
Pour faire une épigramme, il faut être méchant, ou très doux, aboyer ou jouer de la flûte, mettre des trémolos ou des cris dans son chant, mais à la condition de finir par une chute.
Pas de bonne épigramme sans obscénité, sans bite ou sans chatte, sans baise ou sans turlute. On peut y forniquer, pédiquer ou brouter, mais à la condition de finir par une chute.
Une bonne épigramme est courte. Soyons brefs, c'est vite dit. J'en suis à ma cinquième, zut. J'ai trop parlé, mais bon, remballez vos griefs. Je me tais, obligé. Puisque voici la chute.
Et j'en ai encore une.
Coupé.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalan, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...